Quelle joie d'être encore ensemble autour de la parole du Seigneur. C'est une grâce de pouvoir nous retrouver autour du Saint-Livre. Oui, comme cela a été dit, rappelé, c'est un moment toujours privilégié. Je ne sais pas si on le réalise suffisamment, rien que déjà d'avoir les paroles du Seigneur contenues dans ce livre, la Bible, réaliser qu'encore bien certains peuples ne peuvent pas le lire aussi librement, en tout cas au moins dans autant de versions que ce que l'on peut avoir. C'est une richesse extraordinaire et on ne veut pas s'en priver ce soir. On va vraiment lire plusieurs versets ensemble, essayer de voir ce que la parole de Dieu veut encore nous communiquer parce que c'est vraiment une parole de vie pour chacun d'entre nous. On va lire un premier verset, on va lire deux versets, les deux premiers versets, on va les lire pour cerner le titre de notre message ce soir. Le premier, c'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, et le verset 22. Alors si vous avez un petit signé ou si vous avez un petit doigt qui peut rester coincé dans votre Bible, quelques minutes, on reviendra sur ce texte tout à l'heure. Mais dans un premier temps, je voudrais juste lire ce verset 22, 1 Corinthiens 9, verset 22. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens dans ces termes. 1 Corinthiens 9, verset 22. « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Amen. Je me suis fait tout à tous. » Dans la transcription parole vivante, il est écrit « je me suis adapté en tout à tous. » On va y revenir tout à l'heure. On cherche le deuxième verset, Romains chapitre 12. Juste avant, Romains chapitre 12 et le verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. » Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans la version Semeur, il est dit ceci, « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. » Et le titre de notre message ce soir va reprendre ces deux versets que nous avons lus. S'adapter au monde sans s'y conformer. S'adapter au monde sans s'y conformer. Alors, vous savez, le mot « monde » qui est utilisé et qu'on utilise dans le langage courant veut dire plusieurs choses différentes. Mais s'adapter au monde, ça veut dire s'adapter aux humains, aux habitants de la terre. C'est cela, s'adapter aux gens qui vivent, à nos contemporains, ceux qui sont autour de nous. Sans s'y conformer, c'est ne pas se conformer à la mentalité, à l'esprit qui est dans ce monde. La raison principale, ce qui m'a amené à partager ce thème avec vous ce soir, la pensée dominante qui était sur mon cœur, c'est que notre monde, peut-être particulièrement en France, mais quand on regarde dans le monde entier, c'est quelque chose de récurrent. Notre monde s'éloigne de plus en plus des valeurs qui sont communes à tous les croyants, à tous ceux qui sont engagés avec Dieu. Le monde s'éloigne de plus en plus des lois de l'Éternel. Et le réflexe, parfois, le chrétien, on va en reparler tout à l'heure, est un réflexe que l'on peut comprendre et peut-être même que l'on peut trouver fort louable, je vous l'expliquerai. C'est parfois de s'isoler par rapport à ce monde-là. On se sent de plus en plus étranger lorsqu'on s'approche du Seigneur. Et ce monde qui s'éloigne de Dieu, on ne trouve plus rien de commun avec lui. Et il y a un danger pour chacun d'entre nous parfois dans cet isolement. Eh bien, parce qu'on a envie de rester toujours près du Seigneur, on a aussi besoin, et c'est ce que l'apôtre Paul nous encourage à faire en tout cas, de rester au contact de ce monde, même plus que de rester au contact, de s'adapter aux gens qui sont autour de nous. On va en reparler longuement ce soir. Tout enfant de Dieu, quel qu'il soit, que ce soit au début de sa conversion, que ce soit après des dizaines d'années de conversion, tout enfant de Dieu est confronté à ce qu'on pourrait appeler un difficile équilibre, en tout cas un équilibre délicat, entre d'un côté d'avoir le souci, comme l'apôtre Paul nous le dit, eh bien, d'aller vers nos contemporains. Nous verrons que c'est notre mission, nous sommes restés ici-bas sur la terre pour cela. Nous devons nous mêler à la vie de nos contemporains, et c'est là que on sent parfois la difficulté, et on peut dire une forme d'incompatibilité, mais c'est nécessaire. Et d'un autre côté, c'est tout autant nécessaire de se démarquer de la mentalité du monde dans lequel nous vivons. C'est un équilibre délicat. Alors parfois on tombe d'un côté, on tombe d'un autre. On va essayer tout simplement, avec ce que la Bible nous enseigne, on va essayer de trouver un petit peu un point d'équilibre, en tout cas à être encouragés les uns et les autres, à pouvoir nous adapter au monde sans nous y conformer. Le monde entier, hein, c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est l'apôtre Jean qui dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans 1 Jean 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ne nous étonnons pas de tout ce que nous voyons, de tous les dégâts qui sont quasiment pour tous d'origine spirituelle, de rébellion de l'homme contre Dieu, d'avoir voulu se séparer de Dieu. Et nous vivons dans ces contextes-là. Alors, comme nous le faisons souvent, nous allons regarder quelques instants au modèle de Jésus. Jésus n'était pas de notre monde. Et quand on regarde toute sa vie, il ne s'y est jamais conformé. Il n'était pas de notre monde. Pourtant, Jésus s'est adapté à notre condition humaine. Il a mangé comme nous. Il a bu. Il a parlé comme ses contemporains. Il a marché sur cette terre. Il a dormi. Il a souffert comme nous. Pourquoi ? Pour que nous puissions entendre le message de l'Évangile. Pourquoi Jésus s'est adapté à notre condition humaine ? C'est pour nous sauver. C'est afin que ce soir, nous puissions être là et être au bénéfice de la vie de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus, quand on regarde la vie de Jésus dans les Évangiles, on voit que pour mieux atteindre les cœurs, il s'est adapté à certaines circonstances. Il s'est approché lui-même des hommes. Vous savez, des fois, on attend que ce soit les autres qui viennent un petit peu vers nous et qui, voilà, on cherche l'adhésion des gens vers nous. Mais nous voyons l'attitude de Jésus qui est allé vers. Et on peut utiliser ce mot, il s'est adapté à des circonstances et en tout cas à des hommes et des femmes. Il n'a pas fait un tri, le Seigneur Jésus. Il n'est pas allé vers une catégorie particulière de gens. Il est allé vers tous. Riches, pauvres, religieux, samaritains, malades, enfants, exclus de la société. Jésus est allé vers tous. À tel point que Jésus relèvera cette réputation qu'il avait. Ce sont les paroles de Jésus qui dit ceci. Le Fils de l'homme est venu, mangeant, et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, dans Luc chapitre 7 et le verset 34. Jésus n'était pas de ce monde, c'est clair. Et pourtant, il s'est adapté à la condition humaine pour pouvoir annoncer le message du salut. Est-ce que cela veut dire que Jésus a fermé les yeux sur le péché ? Pas du tout. Bien au contraire, dans beaucoup de circonstances, Jésus a révélé le péché, la rébellion qu'il y avait dans le cœur des hommes. On ferait peut-être ne serait-ce que référence, vous savez, à cette situation où les hommes étaient là, avaient amené une femme adultère devant le Seigneur Jésus. Plusieurs étaient là pour pointer un péché. Et Jésus a permis, au travers de cette circonstance, que plusieurs péchés soient révélés, puisqu'il est dit que plusieurs sont repartis, repris dans leur conscience. Cela ne veut pas dire que Jésus a fermé les yeux sur le péché. Être ami des pécheurs ne veut pas dire que nous approuvons leur agissement, mais nous les acceptons tels qu'ils sont, afin de les gagner pour Jésus-Christ, afin de leur témoigner, de mille et une manières, je dirais, de leur témoigner l'amour de Dieu. Alors, le témoignage de Jésus nous interpelle. Il n'était pas de ce monde, il ne s'y est jamais conformé, pourtant il s'est adapté à cette humanité. Mais sa prière, vous savez, la fameuse prière sacerdotale, son témoignage, c'est vrai, nous interpelle, mais sa prière aussi, on voudrait peut-être la relire un peu ensemble ce soir, dans Jean au chapitre 17. Jean chapitre 17. Et si Jésus a intercédé de cette manière pour nous, c'est quelque chose que l'on doit s'attendre à vivre d'une manière normale aujourd'hui. Jean chapitre 17, on peut lire à partir du verset 14. Jean 17, verset 14, qui est appelé la prière sacerdotale. Jésus prie en ces termes: « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Amen. Tout comme Jésus, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, comme l'a rappelé Michaël tout à l'heure, où Dieu, d'une façon miraculeuse, a fait de nous de nouvelles créatures, à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus de ce monde. On a déjà la tête au ciel, en tout cas le cœur. On ressent de suite qu'on n'a plus rien à voir avec la mentalité de ce monde. Tout comme Jésus, nous ne sommes pas de ce monde. Mais tout comme lui, nous y sommes envoyés. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, dans Marc 16, verset 15. Et nous voulons nous rappeler encore ce soir l'importance pour nous d'évangéliser, de témoigner autour de nous à toutes ces âmes qui se perdent, qui sont éloignées de Dieu. C'est vrai qu'elles ne nous comprennent pas. Le Seigneur Jésus, dans sa prière, disait que ce monde, il nous haït. Forcément, il s'éloigne de la vérité. Nous voulons leur apporter la vérité. Forcément, il y a une contradiction saisissante. J'allais dire, c'est normal, et tant mieux quelque part, qu'il y ait des mauvaises réactions. C'est quelque part bon signe. La vérité, elle est là pour interpeller les cœurs, révéler en tout cas la condition dans laquelle sont les êtres humains autour de nous. Et c'est important pour nous d'évangéliser. Rappelons-nous que une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit nous a été donné, pourquoi nous avons été baptisés du Saint-Esprit, mais c'est pour que nous soyons des témoins autour de nous. Nous voulons nous le rappeler encore ce soir. Nous faisons parfois cette erreur de demander aux non-croyants de s'adapter à nous, en leur demandant parfois de se conformer aux exigences de Dieu. Ce sont des maladresses. Je ne dis pas ça pour juger, juste pour que ça nous interpelle. Ils en sont totalement incapables, comme vous et moi, on en était totalement incapables, tant que le Seigneur Jésus n'avait pas fait de nous une nouvelle création. Mais c'est à nous d'accomplir notre mission d'évangéliser en, excusez-moi l'expression, en nous fondant un petit peu dans la masse. Voilà, ça c'était mon introduction. Ça va? Vous y êtes encore? S'adapter au monde sans s'y conformer. On va juste développer deux points, très simplement. La première partie, ça va être qu'est-ce que signifie pour nous s'adapter au monde. Alors on va revenir sur ce texte où peut-être votre doigt est encore, 1 Corinthiens 9 et au verset 19. On va relire juste le contexte dans lequel l'apôtre Paul a dit « Je me suis fait tout à tous ». 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19, sur ce premier point, s'adapter au monde, ou l'expression de l'apôtre Paul, se faire tout à tous. 1 Corinthiens 9, verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Verset 20, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Verset 22, « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Verset 23, « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. » Amen. Insistons dès le départ que cette expression « se faire tout à tous », qu'on peut comprendre par on peut le dire comme ça, le fait de s'adapter au monde, à ses contemporains, insistons bien dès le départ que tout ce que Paul a fait n'avait qu'un seul but. Et si on veut rester vraiment dans le contexte, nous devons insister, souligner cela. Cela n'était fait que dans un seul but, et cela est rappelé dans les 4 versets, à chaque fois, je pense que vous l'avez bien lu, afin de sauver. Comme Jésus a été envoyé dans ce monde pour nous sauver, Dieu nous envoie dans ce monde pour arracher les âmes de la perdition éternelle. Rappelons quand même cette notion que nous n'avons aucune capacité personnelle à convertir ceux qui sont autour de nous. N'oublions jamais la part de l'homme, la part de Dieu dans toute cette affaire. Mais pour autant, Dieu, dans son infinie sagesse, a permis que nous soyons, à notre tour, une fois que nous avons été engagés avec lui, que nous soyons des véritables témoins autour de nous. Nous n'avons aucun pouvoir de sauver. Dieu seul est capable de sauver, seule la parole de Christ, lorsqu'elle est en contact avec une âme perdue, peut redonner la vie véritable. On n'a pas de capacité à convertir, mais nous devons chercher à atteindre les cœurs, à les mettre au contact de la parole de Christ dans leur réalité quotidienne, afin qu'ils voient autre chose, qu'ils voient véritablement les beautés spirituelles que Dieu veut leur montrer, alors que le prince de ce monde, Satan, cherche à les leur cacher. En tout cas, c'est le témoignage que nous venons de lire de l'apôtre Paul qui, en toute occasion, que ce soit avec les Juifs, ceux qui étaient sous la loi, ceux qui sont sans la loi, qu'importe, en toute occasion, il cherche à s'adapter à eux. Ils ne connaissent pas l'Évangile, mais lui, il a un désir, c'est de leur témoigner l'Évangile et qu'ils puissent être gagnés à Jésus-Christ. Vous savez, il suffit de quelques décennies pour que le monde change d'une manière profonde. Et on peut dire que ce phénomène, pour nos générations, on peut dire à partir de la génération, on peut dire de notre frère Norbert de Dieu, mais des générations comme les miennes, on peut dire que ce phénomène est largement amplifié par les évolutions technologiques, on peut le dire époustouflantes, que nous avons connu. Cela signifie tout simplement que nous ne vivons pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a seulement 30 ans en arrière. Même le langage, même dans le langage, si vous voyez les évolutions, c'est impressionnant. Tout cela pourquoi ? Pour dire que nous devons prendre en compte les manières de vivre de nos contemporains. pour que chaque fois que cela n'affecte pas, bien sûr, le respect pour nous de la loi de Dieu, nous puissions, nous aussi, nous fondre dans la masse et vivre avec eux afin de les gagner, comme l'apôtre Paul le dit, afin de les gagner à Christ. Je prends juste un exemple. Le téléphone portable. Pour voir un petit sondage, qui n'a pas de téléphone portable ? Ben, peut-être vous ne l'avez pas. Oui, sauf les enfants. Ouais, c'est un message. Hein ? Ils les ont en plus. Hein. Tout le monde a le téléphone. Bon. Il y a 30 ans, on ne pouvait parler à distance qu'avec le téléphone fixe. Et c'était déjà extraordinaire à l'époque. On n'aurait pas imaginé qu'à un moment donné, on aurait des petites machines avec nous. Trentaine d'années à peu près. Peut-être moins. Aujourd'hui, à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu, on peut se parler, s'envoyer des textes, des photos, des vidéos. On peut vivre des événements et les faire vivre à quelqu'un d'autre en direct, souvent avec nos proches. Vous ne le faites pas, ça ? Ah. Bon, je ne vais pas parler des méfaits ou des bienfaits, ce n'est pas du tout le propos ce soir de ces nouvelles technologies. C'est juste pour dire que le monde change d'une manière profonde, parfois en quelques années, et on peut dire que réellement aujourd'hui, nos façons de communiquer a énormément évolué dans notre société. Vous savez, le portable, ça a tellement d'incidence que même les gens, quand ils marchent dans la rue, regardez-les marcher aujourd'hui dans la rue, la tête baissée, même en traversant le passage piéton, ce qui est extrêmement dangereux. Mais pour dire comment nos habitudes et nos façons de parler, de communiquer peuvent énormément évoluer. Pourquoi je dis tout cela ? Parce que nous devons avoir ce souci, comme l'avait l'apôtre Paul, de pouvoir communiquer l'Évangile à nos contemporains. On doit pouvoir parler leur langage. Alors, je vais dire ceci. Nous devons nous habiller comme tout le monde, tant que la tenue est décente. Attention. Nous devons parler le langage compris des autres, en veillant à ne pas être vulgaire et grossier. C'est possible. Nous devons débattre des problèmes de société, de tout ce qui nous entoure autour de nous, sans colère ni haine. Je peux comprendre, je fais une toute petite parenthèse, que quelqu'un fasse le choix de ne pas vivre comme nos contemporains. Je pense par exemple à certains qui refusent d'avoir la télévision chez eux. Je pense peut-être aussi à des chrétiens authentiques qui, vous savez, ils cherchent à vivre en communauté, un petit peu à l'écart de la société. Je peux comprendre que lorsqu'on a envie de rester auprès du Seigneur, qu'on n'a pas envie d'être pollué, vous savez, par tout ce que vit la société autour de nous, je peux comprendre qu'il y ait un certain réflexe à s'isoler. Et à la limite, pour rester près du Seigneur, c'est louable. Mais je dirais, attention, comment accomplirons-nous notre mission d'aller vers ceux vers qui le Seigneur nous envoie? Comment nous pourrons atteindre ces âmes si nous sommes trop en décalage avec la vie que nous vivons? Je vais dire ceci. En fait, c'est dans la mesure où nous vivrons le plus naturellement possible notre foi en Dieu que nous aurons tous les jours, dans quelque lieu que ce soit, travail, famille, etc., que nous aurons de multiples occasions, et c'est là l'importance, de marquer la différence par nos paroles, par nos choix, par nos convictions, par notre douceur, par notre paix, etc., notre joie de vivre en tout temps. J'ai envie de dire, donnez-leur envie de vivre ce que vous vivez. Si je vis pleinement ma foi au quotidien au milieu de mes contemporains, je verrai que s'adapter au monde sans s'y conformer, c'est en fait le savoir-vivre du chrétien et marcher à l'exemple de Jésus comme lui-même a marché. Mais attention toutefois aux limites. il y a des excès que nous devons ici dénoncer, où au nom de l'adaptation au monde, on utilise parfois des moyens totalement inadéquats à l'Évangile. Et c'est à tel point que certains ont pu dire que, au lieu que l'Église aille dans le monde, c'est le monde qui est entré dans l'Église. Oui, je suis persuadé parce que la parole de Dieu nous l'enseigne, nous avons besoin de nous adapter aux gens qui vivent autour de nous, à nos contemporains, de nous faire un peu tout à tous, comme le faisait l'apôtre Paul, afin, perdons-moi de cela de vue, afin de les gagner à Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés. On ne peut pas rester insensible. Lorsque le Seigneur Jésus nous a arrachés des ténèbres, nous a amenés dans la lumière, on ne peut pas être insensible au sort de tous ceux qui autour de nous se perdent. Nous devons annoncer l'Évangile, nous devons prêcher, nous devons accomplir cette mission pour laquelle nous sommes encore ici-bas sur la terre. Et pour autant, attention aux limites. Je vais parler tout à l'heure de cet équilibre et après avoir parlé dans ce premier temps de cette notion comment s'adapter au monde, je voudrais parler maintenant dans ce deuxième temps, ne vous conformez pas au monde. Je vous relis ce verset que nous avons lu tout à l'heure. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand l'apôtre Paul nous invite à ne pas nous couler simplement, vous savez, dans le moule de ce monde, je pense qu'il ne s'arrête pas juste aux considérations d'ordre vestimentaire, que ce soit d'ordre alimentaire, que ce soit le refus du progrès, le rejet de la télévision, la radio, etc. C'est surtout au niveau de nos pensées que nous devons être extrêmement vigilants, au niveau de la mentalité que nous devons être vigilants. Vous savez, quand nous gardons nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, tout le reste, la mode, l'habillement, tout ça, etc., ne vous inquiétez pas. Ce sera vécu d'une manière équilibrée lorsque le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, est dans chacun de nos cœurs. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, nous sommes les uns et les autres influencés par les pensées qui dominent notre temps. On insiste souvent sur l'aspect média, et on a raison de le faire, mais je crois que chaque génération a eu ses moyens de communication. Il y a eu des générations où c'était plus d'une manière orale, directe, etc. C'était une autre façon, mais c'est facile quelque part, avec des annonces et tout ça, vous savez, de conditionner un petit peu le peuple. Moi, je fais une petite parenthèse, j'aime pas trop parler de moi, mais je me souviens que lorsque j'ai fait une première scientifique, et j'étais toujours troublé dans mon cœur. Chaque fois qu'on essayait de nous apprendre voilà, les véritables origines du monde et toutes les notions rationalistes, et oui, la datation radiocarbone, tout était très scientifique pour nous prouver que ce n'était pas Dieu. Vous savez, quelque part, on a voulu écarter Dieu, la religion, mais on en a amené autre chose à côté. Et cela peut polluer notre esprit. Je pense à nos enfants. Ils sont dans l'éducation nationale et quelque part, ils sont aussi au contact de ce qu'ils sont obligés d'entendre et d'enseigner. Je sais que même pour des professeurs chrétiens, parfois, c'est délicat parce que voilà, ils ont un enseignement qui leur est imposé. C'est au niveau de nos pensées, de notre mentalité que nous devons être extrêmement vigilants. Vous savez, avant de connaître Jésus-Christ, notre vie entière était influencée par la mentalité de ce monde. Regardez quelques versets avec moi. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 3. C'est bon parfois de se rappeler quelle était notre condition avant, non pas pour, mais peut-être pour réaliser aujourd'hui dans quelle position nous sommes véritablement en Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce que fait l'apôtre Paul dans l'annonce du salut par la grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous vous y retrouvez ? nos façons de vivre et de nous comporter étaient complètement influencées par la mentalité de ce monde. Regardez au chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire, c'est des pensées vides de sens. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà ce que nous étions autrefois. Nos façons de nous, toute notre vie en fait était régie par la mentalité, tout ce que nous voyons, ingurgitions en fait de ce monde. Regardez Colossiens au chapitre 1er. Plusieurs fois l'apôtre Paul fait ce contraste aussi pour nous amener à considérer quelle est notre position en Jésus-Christ. Et c'est important de comprendre ces choses. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Vous l'avez trouvé, Colossiens 1, verset 21. J'avais pas dit ça ? Ah, pardon, excusez-moi. Ben, on va le relire. Colossiens, chapitre 1, verset 21. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Amen. Maintenant, nous ne vivons plus de la même manière. Il faut quelque chose de très tranché entre ce qu'était notre ancienne vie et notre vie présente, notamment dans tout ce système de pensée. Et nous devons garder nos pensées en Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui dit à Tite, « La grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Dans Tite, chapitre 2, verset 12, nous devons marcher différemment, on ne peut plus marcher selon les convoitises comme autrefois, et comme l'a si bien dit Michael tout à l'heure, nous devons compter sur l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible par nous-mêmes, c'est impossible. Pas plus que nous étions capables de naître de nouveau, nous ne sommes pas capables de marcher selon l'Esprit dans ce monde. On n'est pas meilleur que les autres. Mais le Seigneur nous a promis que sa grâce, que son Esprit dans nos vies, allait faire cette œuvre dans nos vies. Si toutefois nous sommes d'accord, il y a bien sûr des choses que nous devons mettre en action et être acteurs, en tout cas au moins volontaires dans ce chemin-là avec le Seigneur. Vous savez, la sanctification, c'est souvent mal compris entre un but à atteindre et le chemin vers lequel nous devons marcher et dans lequel nous devons en tout cas persévérer jour après jour. Vous savez, c'est le diable qui tient les rênes de ce monde. Jésus l'a appelé le prince de ce monde dans Jean au chapitre 16 et au verset 11. Et vous savez, le diable qui tient les rênes de ce monde, il fera tout pour nous convaincre que la nécessité de s'adapter à nos contemporains passe par une imitation parfois aux méthodes de ce monde. Et il y a un grave danger à titre personnel, mais beaucoup aussi à titre collectif, dans l'Église, de ne pas prendre les méthodes du monde pour, soi-disant, vouloir nous adapter à ce monde, quitte parfois, pour certains, à faire des choses, et je le dis, qui sont contraires aux lois de Dieu. Moi, je pose la question, comment alors pourrons-nous marquer la différence ? C'est cela, ce qui est important pour nous. Regardez ce que dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 5, au verset 14. Jésus a dit ceci, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » C'est ce que je disais tout à l'heure, on a peut-être envie de s'isoler par rapport à ce monde-là, on a envie de... Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Vous savez ce que c'est le boisseau ? Ouais. C'est un récipient cylindrique qui servait à mesurer le blé et les céréales. Voilà. c'est quelque chose qui était utilisé à ce moment-là. Et pour dire que la lampe, on ne la met pas sous le boisseau, mais qu'est-ce qui est écrit ? On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi ? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est cela marquer la différence. Afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Pas caché. Pas, j'allais dire, peut-être parfois mise dans un certain endroit où, qui est peut-être quelque chose de confortable pour nous. Cette lumière, elle doit luire au milieu des ténèbres qui nous environnent. Nous avons besoin continuellement, et je pensais tout à l'heure, alors que nous avions ce moment de prière, à ce qui nous a été dit dimanche matin, comme quoi c'est vrai que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, et combien c'est impératif, du premier jour où je donne mon cœur à Jésus jusqu'au dernier jour où il me vient me chercher, ou si je pars d'ici-bas, c'est de veiller et de prier continuellement, cette veille dans notre cœur, de faire attention à tout ce que le Seigneur Jésus nous a engagé. Il faut, c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Éphésiens, il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée pour que votre cœur soit transformé et que toute votre attitude mentale et spirituelle, elle soit changée. Dans Éphésiens 4, verset 23, je vous ai lu la transcription parole vivante. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre pensée, dans notre mentalité, afin, et c'est impératif, mes frères et sœurs, de ne pas nous conformer au siècle présent. Je voudrais conclure en disant ceci. Nous l'avons lu dans la prière sacerdotale. Nous ne sommes pas de ce monde, mais pourtant nous sommes envoyés dans ce monde. Et quand on est né de nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, on se sent de suite étranger un petit peu à... C'est comme cette ancienne vie finalement. Et c'est difficile pour nous de savoir comment nous positionner dans ce monde où finalement on se sent de plus en plus étranger. Nous réalisons que nous sommes d'un autre monde et que nous sommes étrangers, devenus étrangers à la vie d'ici-bas. Et je dirais que tout au long de notre vie chrétienne, plus on a envie de s'approcher du Seigneur, et c'est normal que nous le fassions, et plus c'est quelque chose de vivant dans notre vie, plus on se sent étranger. Et c'est pour cela tout à l'heure que je vous disais que je peux comprendre parfois que certains prennent une position d'isolement par rapport à ce monde-là. Je peux le comprendre. Je dirais juste, faites attention, n'oubliez pas la mission dans laquelle nous sommes engagés, parce que plus on s'isole, plus à ce moment-là on sera devenu inatteignable, voire inaccessible par nos contemporains. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure avant de lire avec vous un dernier verset. C'est difficile parfois de vivre notre foi au quotidien. C'est plus facile, vous voyez, comme ce soir, d'être là dans ce lieu, de partager la parole, nos témoignages. On se comprend de suite. Même si vous allez demain dans une église, vous ne connaissez personne, vous pouvez témoigner de votre foi. Je dirais même qu'un regard, un sourire en volant, quand on partage la même foi, quand on partage le même esprit. Je me souviens d'une fois, on cherchait une église là, et de suite de voir le rayonnement, c'est dans cette rue. Il y a des choses qui... On peut communiquer entre nous. Mais c'est vrai, de même, vous vous retrouvez dans votre milieu professionnel, pas de chrétiens autour de vous, la chose est complètement différente. C'est difficile de vivre notre foi au quotidien. Difficile de marquer la différence. Mais Dieu nous donne sa grâce. Et je voudrais insister là-dessus, et notre frère Michael l'a bien dit tout à l'heure, que nous devions compter sur l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devons compter sur toute la grâce de Dieu pour qu'au milieu même de toutes ces incompréhensions que nous allons vivre, Dieu, d'une manière prodigieuse, disons-le, fasse faire luire sa lumière dans les cœurs enténébrés. Nous sommes là juste pour marquer la différence par nos paroles, attitudes, tout ce que je vous ai décrit un petit peu ce soir. Nous sommes là pour cela et c'est Dieu qui convainc les cœurs. Nous allons lire un dernier verset ensemble dans 1 Pierre au chapitre 2, un verset de conclusion. 1 Pierre chapitre 2, s'adapter au monde sans s'y conformer, c'est un équilibre délicat, mais croyons que le Seigneur Jésus nous y aidera jour après jour et que nous puissions vivre ces versets que l'apôtre Pierre nous rappelle. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimé, 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Bien-aimé, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font guerre à l'âme. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. On parlait tout à l'heure des paroles. On peut vivre comme nos contemporains, mais d'une manière différente. C'est possible. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est Dieu qui le fait, je le disais tout à l'heure, j'insistais là-dessus, c'est pas nous qui visitons, c'est Dieu qui visite, c'est Dieu qui convertit, c'est Dieu qui rappelle ces notions où le pécheur il est obligé de plier le genou devant Dieu. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, nous dit la parole. Mais c'est vrai que parfois on est là, ils nous calomnient, ils ne nous comprennent pas. Et je disais tout à l'heure que c'est bon signe parce que c'est la vérité qui se confronte au mensonge. Eh bien, dans ce lieu-là, ils remarquent vos bonnes œuvres afin qu'ils puissent glorifier Dieu au jour où Dieu les visitera. Prions le Seigneur un instant ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons nous rappeler ensemble que tu as accepté volontairement de venir dans ce monde pour le salut de notre âme. Et nous voulons te bénir pour cela, te remercier. Oui, nous étions loin de toi auparavant. Nous t'avons accepté, tu as transformé nos vies. Mais nous nous rappelons aussi que si tu es venu sur la terre, c'est pour nous donner un exemple. Nous voulons marcher comme toi tu as marché, Seigneur. Merci pour tous ces témoignages que nous lisons dans les évangiles, où tu t'es approché de ceux qui étaient autour de toi. Seigneur, que nous puissions déjà dans nos cœurs, avoir l'amour pour les âmes perdues, tel que tu l'as toi-même, Seigneur. Que nous puissions vraiment nous sentir concernés pleinement par le sort de tous ceux qui sont autour de nous et qui se perdent. Nous te demandons ce soir de nous donner la sagesse, de nous donner l'intelligence, de nous donner aux uns et aux autres cette sagesse de veiller constamment, de prier, de nous nourrir constamment de ta parole, de prendre ce temps jour après jour à tes pieds pour pouvoir recevoir tout ce dont nous avons besoin, afin de savoir comment nous comporter dans ce monde qui est si éloigné de toi. Oui, c'est vrai, comme nous l'avons partagé ce soir, on aurait envie parfois de s'isoler, de s'écarter de ce monde. Mais nous voulons nous rappeler, c'est ta parole qui nous le dit encore ce soir, que tu nous as envoyés dans ce monde. Tu nous veux, Seigneur, à titre personnel, tu nous veux pour cette église de Sainte-Anne. Tu veux que nous portions le message de l'évangile autour de nous. Alors nous voulons le faire, Seigneur. Et nous voulons savoir comment nous devons le faire. Nous devons savoir, Seigneur, comment nous devons parler avec sagesse, avec vérité. C'est vrai que nous voulons, Seigneur, à la fois avoir cette fermeté, Seigneur, vis-à-vis de ta parole. Mais nous voulons avoir un cœur ouvert, Seigneur. Comprendre nos contemporains, comment comprendre les membres de nos familles. C'est vrai que peut-être parfois par nos langages, par nos attitudes, nous avons été peut-être un petit peu durs. Pardon, Seigneur, pour toutes ces mauvaises attitudes, mais aide-nous, Seigneur. Nous t'en supplions que nous puissions te ressembler dans ta façon de comporter, dans ton vocabulaire, dans les paroles que tu pouvais communiquer. Nous croyons que tu peux le faire encore aujourd'hui. En tout cas, le monde dans lequel nous vivons en a tout autant besoin. Merci pour mes frères et sœurs, merci pour ma propre vie. Nous comptons sur l'œuvre de ton Saint-Esprit, afin, Seigneur, que nous puissions être cette lumière qui luit à la gloire et à l'honneur de ton nom. Amen.